soir, 24 avril 90, 24 avril 2013, il y a de cela 23 ans que le maréchal Mobutu annonçait la démocratisation du pays. Quel bilan faire du processus démocratique en RDC? Nous recevons comme invité André Alain Atundu Lyongo, cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR. Il était directeur général adjoint de la GECAMINE Exploitation lors du discours du 24 avril 90. André Alain Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean-Joseph Mukendi, membre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il était conseiller politique d'Étienne Tshisekedi lors du discours du 24 avril 90. Maître Mukendi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bouendoua Elugaïsi, politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendoua, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Emmanuel Kateri, depuis Butembo, Nord Kivu. La démocratie est un exercice pas du tout facile, tout en comprenant ce qui est arrivé 23 ans après son acquisition. Ce lent avancement doit nous servir de leçon. Désiré Bassaki, Bognololo de Bougna en province orientale. J'estime que le bilan est mitigé par rapport à la manière dont les politiciens qui hier ont milité et contribué à vaincre la peur pour affronter la dictature, ont choisi plutôt la personnalisation du pouvoir et sont passés à côté de la lutte idéologique des principes, des idées et de l'éthique réelle et véritable qui est la gestion publique du peuple par le peuple et pour le peuple, pour les triomphes au profit des intérêts personnels et égoïstes. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
24 avril 90, 24 avril 2013, il y a de cela 23 ans que le maréchal Mobutu annonçait dans un discours historique à la cité de l'Ancien à Kinshasa la démocratisation après avoir lancé des consultations populaires à travers le pays. D'après le président Mobutu, ces consultations lui permirent notamment de déceler l'aspiration du peuple au multipartisme. Les populations demandaient également la dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité, exigeant pour ces derniers une profonde restructuration en vue de garantir en toutes circonstances les droits fondamentaux des citoyens et les libertés individuelles. On écoute un extrait du discours du président Mobutu.
Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre, mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
Voilà, comprenez mon émotion, c'est une phrase qui est restée très célèbre. André Alain Atundu Lyongo, avant d'entrer dans le vif du débat, comment à l'époque vous avez reçu ce discours? Je rappelle que vous étiez directeur général adjoint de la GECAMINE Exploitation. Était-ce une grande déception?
C'était surtout une grande surprise pour tout le monde. Parce que le discours, en réalité, a été fait par quelques personnes et la majorité, notamment tous les responsables du MPR, habituellement associé à ce genre de travail, le comité central, etc., il n'était pas au parfum. Et donc le président fondateur, comme on le disait dans le temps, voulait faire un coup, comme il avait l'habitude de le faire, en disant, tiens, en espérant que les résultats allaient être, tiens, monsieur le président, vraiment, c'était un coup de génie. Malheureusement, c'était une surprise tellement grande que ses principaux collaborateurs s'étaient estimés comme trahis.
Alors, comprenez mon émotion, il avait versé quelques larmes. Ces larmes étaient-elles sincères?
Ah ben, il a bien dit.
Certains les ont qualifiées de larmes de crocodile.
Non, je ne pense pas, parce qu'il savait à quoi il renonçait. En réalité, je crois qu'il se rendait compte qu'il n'allait plus avoir la réalité du pouvoir comme il l'avait, à moins de faire des négociations laborieuses. Et donc, et puis, probablement, s'il faut lier à cela, à sa phrase prophétique, après moi, c'est le déluge, peut-être, voyait-il, avait-il des éléments prévoir que la classe politique n'allait pas faire face efficacement à tous les enjeux, tous les dangers, tous les défis, etc. Mais je crois que c'est une réaction tout à fait normale. Hein. L'émotion est... C'est un traître qui passe lorsqu'on s'en rend pas compte.
Maître Jean-Joseph Mukendi, à l'époque vous êtes membre de l'UDPS, à l'époque vous étiez conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Comment vous avez reçu ce discours?
Oui, nous à l'UDPS, le 24 avril 1990, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba était en détention. Plus exactement, il était en résidence surveillée dans son domicile de Limité. Et juste le matin du 24 avril, on était surpris d'apprendre que les policiers ou les qui gardaient le domicile avaient reçu l'ordre de quitter et le domicile était libre. Pour nous, à l'UDPS, le 24 avril 1990 constitue l'aboutissement d'un combat assez long qui a commencé depuis ce qu'on appelait le coup d'État de la Saint-Sylvestre. Je rappelle que les 13 parlementaires avaient déposé une lettre de réclamation de 51 pages au président Mobutu. Et ils ont été arrêtés pour cette lettre le 31 décembre 1980. Et depuis lors, ont commencé donc leurs tribulations qui ont conduit de prison en prison à la création de l'UDPS le 15 février 1982. En quelque sorte, donc, pour nous, le 24 avril, c'est une grande fête, puisque ce jour-là, les revendications contenues dans la lettre de 51 pages, ainsi que toutes les propositions avancées par l'UDPS, notamment pour la démocratie, pour l'état de droit, ont trouvé l'écho dans le discours du président Mobutu ce jour-là. C'était un sujet de satisfaction, quoique les larmes de crocodile que le président Mobutu avait versées ce jour-là montraient très bien que c'était vraiment un caïman qui savait ce qu'il faisait. Il lâchait d'un côté ce qu'il voulait reprendre de notre part sa queue.
Professeur Bouindo, vous êtes un politologue. Le président Mobutu avait-il à l'époque pris la vraie mesure de la situation en prononçant ce discours?
Ah, merci beaucoup, comme vient de le dire mes aînés. Moi, en 90, je vais commencer par là. J'étais en train de mettre la dernière main sur ma thèse de doctorat qui portait sur la pensée politique de Julius Nyerere. Et j'étais en France, j'avais pas mis les pieds au pays depuis plus de 8 ans. Et pour moi, ça avait vraiment, c'était non pas une surprise, mais j'allais dire vraiment, ça m'était tombé sur la tête comme ça. Mais grosso modo, moi, j'ai comme l'impression que 23 ans après, si on jette un petit regard rétrospectif sur ce qui s'est déroulé, on a un tout petit peu l'impression que ces 23 ans des reculades, d'avancées à reculons, d'amitié feinte plutôt que teinte.
Alors professeur, nous allons y revenir tout de suite, mais je vous posais la question par rapport au contexte de l'époque en demandant si le président Mobutu avait, à travers ce discours, pris la véritable mesure de la situation.
Je pense qu'il avait pris la véritable mesure de la situation parce que ne nous bernons pas à l'époque, songe tous les grands enjeux internationaux, l'écroulement du mur de Berlin, les changements d'alliance, les politiques libérales avec les politiques d'ajustement structurel qui prennent un peu de, enfin, comment dirais-je, s'essoufflent aussi. Vraiment, il y a un véritable changement de cap idéologique à l'époque qui pousse tous les régimes à s'interroger sur la suite à réserver. Donc on peut se dire que l'ambiance internationale poussait tout le monde à changer de cap, et c'est ce que disait Nyerere d'ailleurs en un bon soir. Il disait que tout mefiki wakati wa kukubali kutokubaliana, c'est-à-dire accepter de se contredire, et c'était l'ambiance du temps.
Les 23 dernières années de démocratisation en RDC ont notamment été marquées par trois transitions. La première, sous la présidence de Mobutu, a duré 7 ans. Un forum national appelé Conférence nationale souveraine, CNS en sigle, avait été organisé de 91 à 92, réunissant les représentants de toutes les couches de la population congolaise vivant au pays et à l'étranger pour trouver des solutions aux problèmes de développement auxquels le Zaïre d'alors était confronté. Étienne Tshisekedi sera élu premier ministre dans ce forum, mais ne réussira pas à achever son mandat à cause des conflits récurrents qui l'opposaient au président Mobutu. Il faut noter que du 24 avril 90 au 17 mai 97, le Congo Zaïre aura connu 8 premiers ministres. Côté.
Le 16 janvier 92, on assiste à la fermeture avec force, comme l'a déclaré le premier ministre de l'époque, Ngoza Kalibond, de la Conférence nationale souveraine. L'opposition se mobilise contre cette décision. Un mois après, soit le 16 février de la même année, les laïcs chrétiens organisent une marche de protestation pour réclamer la réouverture des travaux de cette conférence. La marche pacifique est réprimée dans le sang. Le 6 avril 1992, réouverture de la Conférence nationale souveraine, suite aux pressions intérieures et extérieures. La Conférence nationale souveraine finit par laisser la place au Haut Conseil de la République, parlement de transition dont les animateurs sont issus de la Conférence nationale souveraine. La première transition prend fin le 17 mai 1997. Ce jour-là, Laurent Désiré Kabila, déjà maquisard dans les années 60, met fin aux 32 ans des règnes de Mobutu. Un an après son accession au pouvoir, les anciens alliés de Kabila lancent une nouvelle guerre dans l'est de la RDC en août 98. Le pays est divisé en trois zone. Kabila meurt assassiné en janvier 2001 sans avoir eu le temps d'organiser les élections. Joseph Kabila, son successeur, va ranimer les négociations de paix avec les belligérants. Un autre forum, le dialogue intercongolais, est organisé à Sun City en Afrique du Sud. Une nouvelle transition de 2 ans est entamée en juin 2003. Joseph Kabila est assisté de 4 vice-présidents. Prévue pour s'achever en juin 2005, la transition est prolongée d'une année. Le premier tour des élections présidentielles et législatives couplée est organisée le 30 juillet 2006, mettant fin aux différentes transitions lancées en 1990. Joseph Kabila remporte la présidentielle de 2006 avant d'être réélu 5 ans plus tard pour un second mandat.
Merci Kevin Kouté. Monsieur l'ambassadeur André Atundu, je prends un extrait du discours du président Mobutu. J'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire de la révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. 23 ans après, en ce qui concerne le multipartisme, est-ce une réussite ou un échec?
Je crois qu'il faut d'abord remarquer que ce passage montre une appréciation inexacte ou incomplète de la part du président, parce qu'il croyait être l'initiateur du mouvement et le maîtriser. Or, le mouvement lui a échappé à la fin du discours. Le lendemain déjà, on parlait de plus de 3 partis. Je pense que c'était une tentative de récupérer, ou tout au moins de conduire la démocratie à la façon d'un père de famille. Mais je crois que ce n'était pas de mise. Lui, un homme politique avisé, je crois qu'il ne s'était pas rendu compte que beaucoup de paramètres avaient changé, notamment du fait de la fin de la guerre froide. Il n'avait plus les mêmes alliés, et bien plus, les alliés étaient même devenus des adversaires et presque des ennemis. Et donc, je pense que ça, c'est une phrase qui montre qu'il n'a pas perçu à sa juste valeur, à sa juste profondeur, les changements que lui-même avait préconisés.
Ambaro de Butembo Nord-Kivu dit: mon constat est que la démocratisation nous a donné un bilan mitigé dans notre pays, car il y a une création exagérée des partis politiques qui naissent comme des champignons, mais pas d'éducation de la population, ce qui a créé des confusions internes. Je pense qu'il nous faut une loi pour les limiter. Monsieur l'ambassadeur Atundu, beaucoup de partis politiques sans idéologie, sans véritable ciment politique, finalement 23 ans après, à quoi aura servi le multipartisme?
D'abord, il faut retenir que le peuple congolais, la classe politique, est resté fidèle à la victoire du 24 avril 1997, à l'esprit, c'est-à-dire être libre, n'est-ce pas, et s'exprimer comme l'on veut, selon les lois de la République. Deuxièmement, l'engagement vis-à-vis de la démocratie, qui est une construction laborieuse, est permanent. Le peuple et la classe politique sont persévérants, même s'il y a des péripéties, mais nous disons, nous gardons le cap. Nous sommes dans le chaudron d'enfer, qu'importe le ballottage, le tangage, etc. Mais nous avançons de ce pas-là, parce que la démocratie, voyez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour, n'est-ce pas, nous disculper. C'est pour montrer la voie par où nous allons passer et la voie dans laquelle nous sommes engagés. C'est une voie difficile. Et donc, aujourd'hui, il faudrait, puisque l'avènement de la démocratie, ou la démocratisation, ces décisions, est tombée comme un coup de massue, n'est-ce pas, qui a déstructuré mentalement, moralement, le peuple congolais, la classe politique, je pense qu'il faudrait créer aujourd'hui une école de la République qui va enseigner les structurants, n'est-ce pas, des valeurs qui constituent la démocratie, le respect du droit de l'homme, le respect du bien commun. Qu'est-ce que c'est que la République? La République, c'est une chose publique. Et donc, quand vous ne respectez pas votre voisin, vous ne respectez pas la chose publique. Quand vous ne respectez pas le bien commun, vous ne respectez pas la chose publique. Il faudrait que qu'on inculque à nous tous ces valeurs fondamentales. Les limites de la liberté. La liberté, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Et donc, nous devons connaître les contraintes auxquelles nous nous sommes astreints. Lorsqu'on dit qu'on ne limite pas la liberté, ça signifie, à moins qu'il y ait une loi, mais si la loi le permet, on peut y avoir autant de partis qu'il y a des individus, comme disaient déjà les anciens romains au Sénat, mais autant d'idées qu'il y a des têtes.
Maître Jean-Joseph Mukendi, un autre extrait du discours du président Mobutu: mais fort de l'expérience du multipartisme de la Première République, j'estime que le changement qu'ensemble nous allons conduire dans ce domaine devra éviter les erreurs du passé, raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne aux Zaïre synonyme de multitribalisme. A-t-on réussi sur ce point?
Oui, je dois dire que, comme je l'ai dit, le président Mobutu, qui n'était pas une personne bête en politique, en tout au moins, et comme je le disais, c'est un caïman qui vous attaquait par le museau et vous rattrapait par la queue. En ceci que, il a voulu encadrer la démocratie qu'il octroyait. D'abord, je voudrais dire qu'une démocratie ne s'octroie pas. Il n'était donc déjà pas bienvenu de pouvoir limiter le multipartisme à trois. C'est la raison pour laquelle l'UDPS avait réagi directement pour dénoncer ce multipartisme à trois et avait exigé le multipartisme intégral. Mais c'est vrai, maintenant nous sommes dans la prospective. Il y a eu, disons, en quelque sorte, je peux dire que ce multipartisme intégral a été mal utilisé. Non pas par les citoyens dans leur liberté, parce que moi je suis d'avis que il faut que tout le monde soit libre. Et si les personnes, j'ai beaucoup aimé la phrase de M. Basuki de Bounia, qui parle de l'éthique dans la politique. En suivant une réelle éthique, les personnes qui constituent des partis politiques indépendamment vont s'unir au fur et à mesure qu'il y a leurs intérêts. Mais quelle est la déformation que nous avons? Il y a eu d'une part la formation exagérée des partis politiques par Mobutu pour pouvoir diviser l'opposition, et le président Kabila, qui est un grand imitateur de Mobutu aussi, a fait la même chose. De sorte que nous avons eu d'une part un multimobutisme et maintenant un multikabilisme qu'on a vu avec les dernières élections de 2011, où le PPRD s'est multiplié en plusieurs branches qui portaient des noms plus ou moins proches. C'est là justement la déformation. Donc quand on parle de plusieurs partis, ce ne sont pas des partis créés spontanément. Il y a donc, et là j'ai beaucoup aimé aussi l'expression de notre compatriote, je crois, de Bounia, qui a dit que, en fait, maintenant, l'objectif de la lutte politique, c'est de se maintenir au pouvoir. Mobutu a tenté de le faire en créant le multimobutisme. Maintenant, Kabila, sur les traces de Mobutu, est en train de faire le multikabilisme qui est parvenu à créer la confusion aux élections que nous déplorons, dont les résultats sont contestés jusqu'à aujourd'hui, et qui ne parviennent pas à donner au pays ni la paix ni le développement.
Alors, Maître Mukendi, 23 ans après, qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis ce processus démocratique?
Ce qui est considéré comme acquis, c'est l'état d'esprit. Maintenant, les personnes sont libres. Même quand les personnes sont arrêtées, le 24 avril, M. Tshisekedi est en prison avec beaucoup de membres de l'UDPS. Au moment où nous parlons, l'UDPS a encore des combattants en prison, avec les soi-disant partisans du complot de l'Imperium, dont Mme Kabungama, vice-présidente de la Ligue des femmes. Mais là, nous devons louer la bravoure de ces personnes qui s'expriment librement, qui bravent en quelque sorte cette nouvelle dictature, comme on avait bravé la dictature de Mobutu. Et c'est là où je dis, il y a un acquis. On a chassé la peur. Le Congolais a généralement chassé la peur, et le combat de l'UDPS de ce côté-là se trouve être réellement un combat très bénéfique, puisque maintenant les Congolais ne sont pas des Congolais de 1970 qui avaient peur même de parler à trois des politiques à l'intérieur de la pays. Donc il y a quand même un acquis. On a chassé la peur, on use de sa liberté, et on peut maintenant aller de l'avant, malgré que l'appareil de répression est toujours aussi fort que du temps de Mobutu.
Professeur Bouendoua, qu'est-ce que pour vous on peut considérer comme acquis? Commençons par là et puis on abordera les faiblesses.
Comme acquis, j'ai vraiment un peu de mal à en trouver réellement, parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Les trois concepts, République, j'ai comme l'impression que le mot république ne rime pratiquement à rien. Res publica, la chose publique, a du mal à exister dans un pays gangréné par la corruption, les concussions, les méthodes véreuses et vérines. J'ai vraiment comme l'impression qu'il y a quelques années que le mot république n'existe que de nom. Démocrate. C'est l'adjectif qui vient de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est-à-dire la démos kratéine. Le peuple ici n'est qu'un faire-valoir de nos amis qui font le multipartisme, un multipartisme formé de partis alimentaires, et on se retrouve réellement dans une situation où les deux mots, d'ailleurs qui sont synonymes et cacophoniques, république démocratique ou bien démocratie républicaine, bon, là, ce qui avait donné le nom à notre pays importe la responsabilité, je ne reviens pas à ça. J'ai comme l'impression que les deux concepts vraiment peuvent difficilement se faire défendre. Enfin, le dernier concept, Congo. Le Congo est un pays avili, méprisé, qui se balade de conférence en conférence pour se faire reconnaître, où l'exécutif a du mal à ça. Vraiment, on a du mal à... on a comme une sorte d'atonie à la tête de l'État, d'aphonie, des cacophonies, à telle enseigne que le nom de notre pays, le Congo, ne fait plus peur, ne se fait pas respecter. Et j'ai comme l'impression, sincèrement, qu'il est temps qu'on refonde et la République République et la démocratie et qu'on repense le pays.
Bienvenue Wanzir et nos écrits de Dar es Salaam en Tanzanie. La démocratie n'est pas pour les Africains. D'une manière ou d'une autre, l'Afrique dépend de l'Occident. Alors comment pouvons-nous parler de démocratie alors qu'on n'est même pas indépendant, professeur Bouindoua? La démocratie ne serait-elle pas adaptée aux Africains?
La démocratie est totalement adaptée aux Africains et je pense qu'il n'y a pas dans l'histoire de peuple aussi démocrate que les Africains. Mais sauf que nous avons importé des concepts vides de tout sens et que nous les avons plaqués en ne tenant pas compte de nos réalités. La démocratie devrait d'abord partir de nos langues, de nos entités, de nos identités pour justifier la construction, la décentralisation, la déconcentration et surtout un concept de Guy Brébant que moi j'appelle la décentration, c'est-à-dire permettre aux gens, à la base, de penser ce qui les entoure, ce que Nyerere lui appelait les kujitegemea, à compter sur soi d'abord. Et ça, j'ai comme l'impression qu'au Congo, quand on en parle, on se dit qu'on balkanise le pays, alors que notre pays est malade de n'avoir pas respecté les langues, les entités et les identités, et on se retrouve, au fait, dans une vraie fausse république et dans une fausse vraie démocratie.
Et donc, pour vous, le professeur, le bilan est négatif, on a reculé, il est mitigé.
Je pense que nous avons subi un véritable fiasco, une reculade, une véritable bérésona idéologique. Au fait, nous avons des partis qui n'ont de parti que le nom. Aucune idéologie. Je vois le PPRD, je vois nos amis de l'IDPS dans leur... mais même là aussi, la démocratie à l'intérieur de l'UDPS, à l'intérieur du PPRD, à l'intérieur de tous les partis qui ne sont que des partis alimentaires, actionnés par des gens qui sont des véritables talleyrands de la politique congolaise, j'ai l'impression vraiment que si nous ne nous mettons pas d'accord pour redéfinir les concepts initiaux, nous n'y arrivons pas. Et bon, mais nous avons peur de le dire, mais je pense que la lutte engagée par l'UDPS au début des années 80, parce qu'il faut aussi le lui reconnaître est véritablement, de repenser, de secouer le cocotier, nous est bénéfique, mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers parce que l'UDPS est aussi un parti un peu fatigué, essoufflé, idéologiquement, culturellement, dans ses méthodes et dans ses pratiques.
Monsieur Lam, excusez-moi, je vous en prie très rapidement.
Mon grand frère Moukendi ne va pas en vouloir pour ça, mais à la limite, on pourrait le comprendre après autant d'années de lutte, mais quand je vois des partis comme le PPRD où j'entends des chansons de rue, voler n'est pas bon, moi je me dis que réellement, on a de quoi faire.
Monsieur l'ambassadeur, à Tundu, il y a Frédéric Chipamba de Kananga, au Kassai Occidental, qui partage pratiquement le point de vue du professeur Bouindoua. Il dit ceci, on peut célébrer cette journée, mais en croyant que la démocratie au Congo est une simple étiquette qui permet aux gens d'appeler ce pays République démocratique du Congo, mais la pratique est zéro pour cette démocratie. Justin Angui de Butembo Nord-Kivu, nous avons beaucoup reculé car il y a un système politique dominé par les rébellions, la corruption, l'immaturité. Seul l'éveil de la conscience politique et un bon système électoral pourront nous faire sortir de cette situation. À mon avis, il y a encore beaucoup à faire, monsieur l'ambassadeur.
Oui et non. Mais il faut d'abord savoir que la démocratie est un carrefour de culture. C'est un carrefour de culture porteur des valeurs soumises à des malentendus. Le mot « peuple » n'a pas le même contenu en Afrique qu'en Europe. Tout simplement à cause de la capacité de comprendre les événements. Alors on va dire, ne serait-ce qu'à cause de l'analphabétisme. Ça c'est un. Ne serait-ce qu'à cause d'un certain déficit épistémologique. Ça c'est deux. Et donc, nous sommes obligés de suivre le rythme de pays de vieilles civilisations qui nous imposent des valeurs que nous n'avons pas encore inculturées. Vous savez, la vie politique a trois valeurs de référence. La valeur idéologique, le référent idéologique, le référent sociologique et le référent ethnologique. Ou ethnique.
Alors, souffrez, monsieur l'ambassadeur, que je vous arrête à ce niveau, sans nous perdre dans les définitions des concepts Qu'est-ce que vous considérez comme acquis par rapport aux 23 ans de démocratie? Le professeur Bouen doit dire qu'on a reculé. Maître Mukendi abonde dans le même sens.
Je pense que notre faiblesse, c'est d'employer des concepts que nous ne maîtrisons pas. Et vous ne voulez pas que je vous explique les concepts?
Allez-y, parce que vous avez la parole.
Ça, c'est un. Bon, ce que nous avons acquis, c'est ce que quelqu'un appelait ici l'état d'esprit. Nous n'avons plus l'esprit fermé et enfermé. Aujourd'hui, nous avons l'esprit en liberté et même en débandade. Et donc, aujourd'hui, le grand problème, c'est comment maîtriser cet esprit pour que notre âme, notre personnalité ne soit pas dévoyée à cause des valeurs qui nous sont imposées, qui sont censées aussi nous imposer le bonheur qui n'est pas nécessairement le nôtre. Par exemple, le concept de la pauvreté, ce sont des concepts relatifs qui dépendent de l'aspiration de chaque peuple. Et l'aspiration du peuple congolais n'est pas l'aspiration du peuple américain.
Alors concrètement, par rapport à tout ce qui s'est passé ici en RDC, quels sont les acquis pour vous? La pauvreté, c'est vrai, n'est pas, la perception n'est pas la même, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire?
La volonté de changer les choses, c'est un grand acquis. C'est ce que nous a amené le discours, disons, c'est la consécration de cette lutte, n'est-ce pas, qui a été proclamée par le discours. Parce que je dois reconnaître, n'est-ce pas, les efforts faits par l'UDPS, mais l'UDPS n'était pas seul. Les services de sécurité aussi, n'est-ce pas? Et eux qui, par leur rapport, expliquer le sens de lutte de l'UDPS, qui, par le rapport, projetait au président de la République les perspectives, et c'est à la suite de leur rapport...
En sciant un peu les côtes de l'UDPS.
Non, soit, ce sont les péripéties. Et c'est à la suite des rapports, n'est-ce pas, des services de sécurité qui ne rencontraient pas la vision générale du président, que celui-ci a dit, je vais faire une consultation, probablement, pour essayer de voir si ce que vous me dites est vrai.
Qu'est-ce qui reste encore de ces années de démocratisation? Selon le professeur Philippe Bioya, analyste politique, les repères les plus importants du souvenir de la démocratisation de la RDC restent la dynamique sociologique, l'engagement et le consensus des Congolais à se démocratiser davantage. Selon lui, Mobutu n'a été qu'un acteur par qui est passée la pulsion mondiale de la démocratie. On écoute le professeur Philippe Bioya.
Le Congo a pris date avec l'histoire du monde qui, à l'époque, ne gérait que par la révolution démocratique. Et le Congo s'est introduit dans le tournant de l'histoire mondiale et s'est positionné comme une nation aspirant à un destin démocratique. Il s'est fait comme une sorte de nouvelle conscience républicaine. Que l'on l'ait accompli, qu'on l'exécute bien ou pas, je crois que c'était un départ, c'était un repère. Pour moi, aujourd'hui, l'aspiration de la population congolaise à la démocratie n'a pas baissé, même si, en fait, les expériences démocratiques ne semblent pas, en fait, converger, parce qu'il y a des ruptures dans le processus, mais ce qui est important, c'est qu'au moins il y a comme une sorte d'engagement collectif, d'un sorte de consensus national, que le Congo ne peut plus reculer, ne peut plus être autre chose que d'être une démocratie.
L'engagement et le consensus des Congolais à se démocratiser davantage, Maître Mukendi, on a parlé tout à l'heure des acquis, vous avez suivi l'ambassadeur à Tundu, le professeur Bouendoua, il y a Sagesse Kapakasi Biaumba de Butembo Nord qui dit « Je suis de ceux qui pensent que la démocratie en RDC est encore au niveau des balbutiements, elle ne tient pas encore sur ses deux pieds au regard de ce qu'elle suppose, la RDC n'est pas encore mûre pour la démocratisation étant donné que toute chose dépend de sa compatibilité avec le milieu. 23 ans après, ne peut-on pas laisser entendre que la démocratie a échoué et que par conséquent, il faudrait tenter un autre système comme celui appliqué par la Chine, Maître Mukendi?
Oui, là, je crois qu'il faut directement aller à l'encontre de ce genre de propositions qui reflètent manifestement certaines réflexions cheminé par la majorité présidentielle, comme nous venons l'entendre tout à l'heure. Vous avez entendu tout à l'heure que la définition de la pauvreté n'est pas la même au Congo qu'ailleurs. C'est comme si les Congolais n'étaient pas des hommes normaux. Donc, si nous sommes des hommes normaux, la définition de la pauvreté est la même, la démocratie c'est la même aussi, nous sommes à mesure de nous assumer. Et là, je crois que le professeur Bioy a raison, il a repris un peu dans des termes scientifiques ce que j'ai dit tout à l'heure, il parle de cette dynamique sociologique. Et en fait, cette dynamique sociologique, c'est là la fierté de l'UDPS. L'UDPS est fier d'avoir d'abord attisé chez le Congolais cette flamme de la liberté, puisque tout le monde avait peur. Et quand on parle des services de sécurité, c'est bon, ils pouvaient faire des rapports. Mais pour nous, les services de sécurité intimidaient les gens, allaient incendier les maisons des combattants de l'UDPS et amener des personnes en détention. Laissons-leur donc là le rôle. Là, s'il faut parler des services de sécurité de Mobutu, il faut en parler globalement. Mais ce qui est important là-bas, c'est cette dynamique que l'UDPS a pouvoir à allumer et qui reste. C'est pour ça que le professeur un peu Bouenda devrait revoir un peu ses copies quand il parle que pense que l'UDPS est un parti fatigué. Mais non, c'est nous qui avons entre les mains cette dynamique. Maintenant, beaucoup de gens sont fatigués. C'est ça peut-être. C'est peut-être son cas. Il avait peut-être été à l'époque à l'UDPS. Maintenant, il est fatigué. C'est peut-être normal. Mais ceux qui sont restés à l'UDPS jusqu'aujourd'hui, vous le voyez, nous maintenons cette dynamique parce que c'est elle seule qui peut nous permettre d'arriver à la solution. Un peuple ne peut réussir que lorsque il est constant. Et comme l'a dit toujours M. Étienne Tshisekedi, nous devons être constants pour arriver à notre but. Et là, je crois que la date d'aujourd'hui doit pouvoir rallumer la flamme de tous ceux qui avaient combattu d'abord 10 ans pour arriver au 24 avril 1990. Et depuis lors, on n'a pas besoin de beaucoup de temps parce que la dynamique est là. Et d'un moment à l'autre, nous pouvons toujours arriver donc à cette véritable démocratie que tout le monde, à laquelle tout le monde aspire.
Alain Elanga de Mbandaka à l'Équateur, la démocratie n'a pas encore atteint son pic en RDC, car jusqu'à présent, la liberté d'expression est toujours méprisée et les droits de l'homme pas respectés. Patrick Elpat Lukusa de Likasio Katanga, le bilan est négatif du fait que les médias qui peuvent aider la population à une bonne démocratie restent toujours étouffés. Maître Mukendi, un mot sur les droits de l'homme et les libertés.
Oui, effectivement, nous sommes le pays est toujours le parent pauvre en matière de respect des libertés, des droits de la personne humaine. Vous avez suivi sur le plan de développement, puisqu'on parlait tout à l'heure, nous sommes toujours à la queue en termes de liberté. Au moment où nous parlons, dans les prisons, il y a des personnes qui croupissent depuis longtemps pour les délits d'opinion, ce qui n'est pas possible. Même des journalistes, ce qui n'est pas du tout concevable. Nous, à l'UDPS, nous comptons plusieurs personnes et dont je vous ai parlé, ceux qu'on a présentés d'une façon maladroite comme étant le complot de l'Imperium, avec une dame qui ne demande pas autre chose que de pouvoir soigner les enfants. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un déficit de démocratie, un déficit de droits humains. Et là, je crois, devant ce genre de problème, il faut qu'il y ait un véritable consensus national. On peut ne pas s'accorder sur les opinions politiques, mais sur le problème qui concerne la démocratie et les droits humains, je crois que la majorité ou la minorité, nous de la société civile, nous devons toujours être d'accord pour que les droits humains, et c'est ça notre avantage à nous tous.
Professeur Bouendoua, quelles sont pour vous les perspectives en ce qui concerne le processus démocratique en RDC? Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait redéfinir les concepts.
Oui, je vais y aller. Je vais d'abord remercier à mon grand frère, le maître Mukendi, qui me demande de rentrer à mes chères études et de revoir mes copies. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part, on ne peut pas envisager l'avenir en ayant les yeux forcément tournés vers le passé, mais on ne peut pas non plus oublier le passé. Dans ce passé s'inscrit des grands partis, je vois le MNC, le MPR, l'UDPS, l'AFDL, le PPRD en l'occurrence, et de tous, c'est vrai que l'UDPS mériterait qu'on le salue, et sincèrement là, je pense qu'en ces moments, on jouerait mauvais jeu. Et j'injurerai mes amis Karibwa et Mikindo à Goma et Bukavu pour... Mais nous savons quand même que c'est un combat de longue haleine. Mais revenons quand même à ceux que ont planté les Birindwa, tous les grands. Parce que dans les années 80, moi j'entrais à l'Unikin ici à Kinshasa. Bon ben, vous attrapez avec l'ombre du début d'une esquisse de moitié de papier où il y a en tête de l'UDPS, vous alliez très loin. Mais actuellement quand même, nous pouvons dire tout le mal, nous pouvons dire tout le bien que nous ne pensons pas de Joseph Kabila ou de tous les autres, mais ce sont des combats quand même qu'on a pu enregistrer. Donc, puisons dans notre passé pour espérer quand même reconstruire l'État, lui redonner ses lus, illustre, c'est-à-dire se faire respecter, c'est-à-dire tout simplement se, comment dirais-je, envisager un État qui soit pour tous un lieu d'épanouissement. Mais ça, c'est un rêve. Et je pense quand même que les jalons ont déjà été mis en place. Et si on revenait un tout petit peu aux acquis de la conférence nationale, où l'UDPS a joué un grand rôle, et qu'on lui fasse aussi jouer un rôle, parce que c'est vrai que les frustrations de ce parti, et des maïmaï, de beaucoup de gens qui n'ont jamais accédé au pouvoir, peuvent nous demander à bon droit de se concerter et d'intégrer leurs analyses dans les pratiques, parce que la République est gangrénée par la corruption, le vol, le viol des âmes et des consciences.
Et donc là, vous rejoignez Maître Mukendi qui parle du consensus national.
Consensus national. Oui, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter dessus. Je pense que tout le monde s'accorderait à dire que il est temps que nous puissions faire ce que Nyerere appelait kukubali kutokubaliana. C'est-à-dire au moins qu'on se mette d'accord de ne pas être d'accord. Et ce n'est pas cela qui nous différencierait parce qu'on irait de l'avant.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, il nous reste moins de 5 minutes et il faut déjà conclure. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour l'avenir?
Vous me permettrez d'abord de saluer la mémoire des acteurs aujourd'hui disparus, à qui nous devons notre situation actuelle, rendre hommage aux acteurs ici présents, notamment mon frère à travers qui nous saluons l'UDPS, et leurs successeurs, parce que le flambeau de la démocratie n'est pas tombé avec les personnes mortes ou avec les acquis. Ce flambeau continue aujourd'hui à être entretenu.
Alors qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Aujourd'hui, je crois qu'il faut surtout... La démocratie, c'est une quête d'excellence. Donc, à partir des acquis que nous avons, nous devons nous améliorer. C'est-à-dire, de la petite transparence dont a parlé le professeur, nous devons devenir de plus en plus transparents. Mais avec un sens de responsabilité. Parce que la liberté, c'est la responsabilité. Nous devons... assumer les décisions que nous avons prises, notamment le premier consensus national, à savoir la démocratie pluraliste et l'abandon des armes et de violence comme moyen politique.
Maître Mukendi, qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Eh bien, vous savez, l'UDPS, nous avons adopté la méthode de lutte pacifique. Et cela nous a amené beaucoup de problèmes, notamment toutes les arrestations. Nous voulons maintenant demander, et je suis heureux que c'est un membre de la majorité présidentielle qui le dise, j'espère que le message, il pourra bien le relayer, que justement, du côté de la majorité présidentielle, on abandonne justement cette politique de la violence contre notamment les opposants. Nous, de l'UDPS, nous avons payé le prix le plus fort. Ça ne sert à rien d'être violent contre ses compatriotes. Et là, j'ai apprécié beaucoup. Je crois que je vais aussi me mettre à l'étude des écrits de Mwalimu Nyerere, apprendre à se contredire dans le même pays. Je ne vois pas pourquoi, quand l'UDPS descend dans les rues, il faut envoyer les chars, alors que au Kivu maintenant, on a besoin de chars, il n'y en a pas. Et c'est le moment justement de pouvoir saluer aussi la bravoure de toutes ces femmes du Kivu, de ces jeunes gens. Merci. Qui sont en train maintenant de croupir dans la misère à cause du manque de démocratie. Nous pensons que l'UDPS va entretenir cette flamme pour que la démocratie vienne bientôt.
Professeur Wendoa, qu'est-ce que les auditeurs qui vous suivent, les internautes peuvent retenir?
Je vais qu'ils retiennent ce qu'ont dit mes grands frères Atundu et Mukendi, mais surtout qu'ils ajoutent cette grande idée qui doit être chère à notre chef de l'État. Au fait, il a grandi en Tanzanie, il connaît Nyerere, disait Ujamaa kama demokrasia ni imani. C'est-à-dire que la démocratie est une attitude d'esprit. C'est tolérer, se comprendre, s'accepter, avancer, mais vraiment dans cet esprit où on peut construire un grand Congo en dehors de toutes nos contradictions internes et personnelles.
Et en ce moment, professeur, on parle du dialogue national. Quelle forme devrait-il prendre, brièvement?
Le dialogue national devrait intégrer les forces qui ont le plus combattu le plus longtemps possible et vraiment intégrer leurs analyses dans la perception et dans la conduite des affaires du pays.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite et programme sur Radio Capi. Au revoir.